Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors cette semaine, allons faire un petit tour du côté de Mozart.
Autant de dorures et des falbalas, les marquis frivoles et les marquises aux fréminois, pour un menuet timide, esquissait trois petits pas. Grâces envolées, vieux airs du passé, clavecin fragile aux résonances d'autrefois, un gosse à perruque blanche a fait danser tous ces gens-là. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non, tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Douce mélodie qui fit 100 fois le tour du monde et que Mozart a négligé d'agrémenter de quelques cha-cha-cha. Surtout rythme gai, danser les brunes et les blondes en oubliant le temps bien proche où pianoter vos petits doigts. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, mais c'est votre vieille marche turque. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, venez marquise, écoutez ça. Tout près d'Istanbul, sous les pergolas, tous les jeunes turcs sont beaux danser de cha-cha-cha. Et la fraîche odeur des roses vient parfumer leurs ébats. Sous le ciel troublant, des nuits de gala, quand un beau danseur serre une fille entre ses bras, dans les yeux de sa compagne, il sait ce qu'il trouvera. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, ce gai refrain qui nous enivre. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, et qui jamais ne finira. Que ce soit Rio, Paris, New York, les Dardanelles, on ne peut résister longtemps quand on entend venir le cha-cha-cha. Rythme tropical, aux senteurs d'ambre et de cannelle, emporte-nous bien loin de tout, dans l'allégresse et dans la joie. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, nuit étoilée sur le Bosphore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, drôle de truc turc que ce truc-là. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non vraiment, on n'est pas fort. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, Mozart ne méritait pas ça. Oui, mais faut bien vivre.
Tout près d'Istanbul, sous les pergolas, tous les jeunes turcs s'en vont danser le cha-cha-cha et la fraîche odeur des roses vient parfumer leurs ébats. C'était la chanson Mozart avec nous, une chanson signée Boris Vian en 1958, une parodie, une contrefaçon même de la célèbre marche turque de Mozart, et c'était interprété par la chanteuse Souris. Tiens, à propos de cette chanteuse, chers auditeurs de la preuve par Z, si vous pouviez m'aider parce que j'ai eu beau chercher dans tous mes dictionnaires, passer quelques coups de fil, explorer internet dans tous les sens, je n'ai trouvé aucun renseignement sur cette chanteuse et pourtant j'aime beaucoup cette version que je viens de partager avec vous. Alors pourquoi cette chanson de Boris Vian comme ça au début de l'émission? Eh bien parce que toute l'émission va être consacrée à Mozart, mais un Mozart pas comme d'habitude. Un Mozart bizarre, si vous me permettez le jeu de mots un peu facile. D'ailleurs l'émission s'intitule « Vous avez dit Mozart » parce que j'ai pensé à la célèbre réplique de Louis Jouvet un peu interloqué quand il dit à Michel Simon « Bizarre, moi j'ai dit bizarre comme c'est bizarre » et j'imaginais Jouvet disant tout d'un coup « Mozart, moi j'ai dit Mozart comme c'est Mozart. Mozart, bizarre, nous écouterons du Mozart réinterprété par certains compositeurs ultérieurs, mais surtout des œuvres de Mozart très peu connues, très drôles pour la plupart, et même avec de l'humour, comme cette plaisanterie musicale écrite en 1787. Plaisanterie musicale écrite donc la même année que l'opéra Don Juan pour deux corps et orchestre à cordes. Alors pourquoi est-ce que Mozart a intitulé son œuvre en plusieurs mouvements plaisanterie musicale? Eh bien parce qu'il a voulu gentiment se moquer de ses contemporains. Il y avait une grosse production de sérénades, de divertissements à l'époque. Chaque maison princière, chaque maison même bourgeoise se devait d'avoir de temps en temps son petit orchestre de 8-10 musiciens pour lequel il faisait composer de la musique par des compositeurs qui n'étaient pas forcément aussi doués que Mozart. Et Mozart écrit une œuvre composée uniquement de ritournelles un peu bébêtes, de motifs musicaux de 3 notes qui ne veulent pas dire grand-chose, une musique maladroite, répétitive, qui est caractérisée par une absence de développement, avec des motifs mélodiques sans intérêt, des modulations fautives, des cadences répétitives, et même vous allez l'entendre à la toute fin du mouvement, ça devient carrément complètement désaccordé. Nous écoutons maintenant le final de la plaisanterie musicale de Mozart par le Concertus Musicus de Vienne sous la direction de Nikolaos Harnoncourt. Le dernier mouvement, le final de la plaisanterie musicale de Mozart pour orchestre à cordes et deux corps, interprété par le Concertus Musicus de Vienne sous la direction de Nikolaos Harnoncourt. J'espère que vous avez apprécié l'humour de Mozart et je continue dans la veine humoristique avec une petite mélodie de la même année, toujours 1787, une mélodie intitulée « Die Alte, la vieille ». Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien il s'agit d'une vieille qui n'arrête pas de dire que maintenant les choses ne vont plus bien du tout, que les jeunes ne sont plus respectueux, qu'il n'y a plus de morale. Et elle répète toujours en boucle « zu meiner Zeit, zu meiner Zeit ». De mon temps, les choses n'étaient pas comme elles sont maintenant. Tiens, ça me fait penser à ma grand-mère qui m'expliquait toujours que les architectes modernes faisaient n'importe quoi et qu'ils construisaient des marches d'escalier de plus en plus hautes. Enfin bref, une grand-mère qui ronchonne, c'est évidemment l'occasion d'un trait d'humour pour Mozart. Et d'ailleurs, il précise bien sur la partition « ein bisschen durch die Nase », c'est-à-dire « un peu avec le nez ». Il demande que la chanteuse chante un peu du nez. Alors évidemment, ce n'est pas facile pour une chanteuse, parce que si elle chante vraiment du nez, ce n'est pas joli. Et une chanteuse n'a pas envie qu'on dise qu'elle a une voix nasillarde. Alors vous allez écouter maintenant dans l'interprétation d'Elia Hamling, la soprano, accompagnée au piano par l'excellent pianiste Dalton Baldwin. Vous allez entendre que Elia Hamling fait une sorte de compromis. Elle parle avec le nez pour se vieillir un peu, mais pas trop pour que la voix reste jolie. Die Alte, une mélodie de Mozart de 1787.
Zu meiner Zeit, zu meiner Zeit, bestand noch Recht und Billigkeit, bestand noch Recht und Billigkeit. Da wurden auch aus Kindern Leute, aus tugendhaften Mädchen Bräute, doch alles mit Bescheidenheit. Oh gute Zeit, oh gute Zeit, es ward kein Jüngling zum Verräter und unsere Jungfern freiten später. Sie reizte nicht der Mutter Neid. Oh gute Zeit, oh gute Zeit. Zu meiner Zeit war Pflicht und Ordnung nicht entweiht, war Pflicht und Ordnung nicht entweiht. Der Mann ward, wie er sich gebührt, von einer lieben Frau regiert, trotz seiner stolzen Männlichkeit. Oh gute Zeit, oh gute Zeit. Die Fromme herrschte nur gelinde, uns blieb der Hut und ihm die Kinder. Das war die Mode weit und breit. Oh gute Zeit, oh gute Zeit. Zu meiner Zeit war noch in Ehen Einigkeit, war noch in Ehen Einigkeit. Jetzt darf der Mann uns fast gebieten, uns widersprechen und uns hüten, wo man mit Freunden sich erfreut. Oh schlimme Zeit, oh schlimme Zeit. Mit dieser Neuerung im Land, mit diesem Fluch im Ehestand, hat ein Covid uns längst bedreut. Oh schlimme Zeit, oh schlimme Zeit.
Nous écoutions la vieille, enfin quand je dis la vieille, je ne parle évidemment pas d'Elia Hamling, la soprano, non. La vieille, c'est le nom de la mélodie de Mozart, Die Alte, mélodie composée en 1787. Et puisque nous en sommes aux œuvres peu connues de Mozart, c'est le sujet, l'objet de notre émission, je vous propose d'enchaîner avec un menuet très joli, très savoureux, tiré du Divertimento en Ré majeur, Köchel 334. Alors pourquoi j'ai choisi ce menuet? Parce qu'il en a composé, Mozart, des menuets. Eh bien déjà, il y a le rôle des corps, vous allez l'entendre, que j'aime beaucoup. Et puis aussi parce qu'il semble prouver définitivement que Mozart est bien l'inventeur de la valse. Oui, ça s'appelle menuet, mais vous allez entendre le caractère un peu chaloupé du trois temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est presque une valse. Il y a aussi l'anecdote, l'origine de la composition de ce menuet. Ce menuet fait partie d'un divertissement composé par Mozart pour son ami Sigmund von Rubinich à l'occasion de sa réception à la faculté de droit de l'université de Salzbourg. À l'époque, pour un oui ou pour un non, on composait de la musique. On composait de la musique pour l'église, bien sûr, pour les cérémonies religieuses, mais aussi pour les cérémonies officielles, pour les anniversaires, et même quand on réussissait à l'université, lorsqu'on se voyait remettre un diplôme, on composait de la musique, on la jouait. C'est une heureuse époque, il y avait du travail pour les compositeurs. Allez, nous écoutons maintenant ce menuet en forme de valse pour cor et cordes, menuet Köchel 334 de Mozart, bien sûr.
Thank you.
menuet en forme de valse pour deux corps et cordes par l'Officina Musicale et de L'Aquila. C'était un extrait du divertissement Köchel 334, toujours de Mozart bien sûr, puisque nous consacrons au divin Mozart notre émission. Et je vous propose de rester dans la même tonalité, Ré majeur, avec un nouveau menuet, mais un menuet très particulier, puisqu'il s'agit d'un menuet pour quatre orchestres. Moi j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, Mozart il en avait tellement marre d'écrire des menuets qu'il essayait d'inventer de petits jeux, des jeux de l'esprit. Et là, il a inventé en quelque sorte la quadriphonie, c'est-à-dire que le menuet est écrit pour quatre orchestres. On imagine que les auditeurs devaient être, je ne sais pas, en plein air, dans un jardin, et qu'il y avait au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, quatre orchestres. Et c'est avec ces quatre orchestres que Mozart a l'idée d'écrire une forme d'écho. C'est-à-dire que vous allez très bien l'entendre maintenant, dans les fins de phrases, le deuxième orchestre reprend les dernières mesures qui viennent d'être jouées par le premier orchestre, puis le troisième orchestre reprend encore quelques notes du deuxième orchestre, et enfin le quatrième orchestre, plus que la cadence finale. Donc on a vraiment un effet d'écho écrit, un menuet en écho pour quatre orchestres. C'est vraiment quelque chose de très savoureux, de très original, interprété qui plus est sur instruments d'époque, sous la direction de Franz Brüggen. Thank you. Nous écoutions l'étonnant menuet final du Nocturne en Ré majeur pour quatre orchestres, que Schell 286 pour les amateurs de numéro 2 catalogue, sous la direction de Franz Brüggen. J'espère que vous avez pu, à la radio, entendre la manière dont chaque orchestre se fait en quelque sorte l'écho du précédent. Bien sûr, si nous étions en situation avec les quatre orchestres situés aux quatre points cardinaux, ce serait encore plus clair. Mais enfin, il me semble qu'on entend bien quand même le jeu prévu par Mozart, ce jeu d'écho. Tiens, écho. L'écho, c'est quelque chose d'intéressant. Vous savez que c'est une nymphe, en fait, écho. C'est une nymphe qui n'arrêtait pas de parler. Et à chaque fois que Zeus, le roi des dieux, avait une aventure avec quelqu'un d'autre que sa légitime, elle ne pouvait pas s'empêcher de cancaner, de raconter à tout le monde ce qui s'était passé pendant la nuit. Alors ça a évidemment considérablement énervé la femme de Zeus, Héra, et un jour elle lui a jeté un sort, elle lui a dit « Eh bien, puisque c'est comme ça, tu auras désormais toujours le dernier mot, mais tu ne parleras jamais la première. » Et c'est ainsi qu'Écho, la nymphe, est condamnée jusqu'au restant de ses jours à pouvoir répéter ce que disent les gens, mais jamais à pouvoir prendre l'initiative de la parole. Je ferme maintenant ma petite parenthèse mythologique pour en arriver à l'œuvre suivante, un nocturne pour trois voix et trois corps de basset intitulé Più non si trovano, une œuvre écrite en 1786. Alors les corps de basset, ce sont des clarinettes graves au son très velouté, et ce sont des instruments qui se marient parfaitement bien avec les voix. Les voix, il s'agit de deux sopranos et d'une basse. Pourquoi est-ce que Mozart compose pour cet ensemble à la fois instrumental et vocal? Eh bien parce qu'au cours de l'été 1786, il est chez la famille Jacquin, il est très ami avec le fils Gottfried, il donne des cours à la sœur Franziska, et de temps en temps, dans la journée, il écrit quelques pièces qu'ils vont tous interpréter ensemble après le dîner. C'est vraiment de la musique de maison, house music, disait-on à l'époque. Rien à voir avec la house music, hein, attention. Donc ce nocturne, Più non si trovano, est écrit sur des paroles charmantes qui nous disent, hélas, de nos jours, il n'est plus possible de trouver d'amant fidèle. Je ne suis pas tout à fait sûr que le problème de la fidélité ait beaucoup évolué entre le XVIIe, le XVIIIe et le XIXe siècle, mais enfin c'est ce qui est dit dans le texte. Et le plus important, c'est que nous écoutions les voix veloutées des sopranos Sandrine Pio et Valérie Gabaye, la voix solide de basse de Frédéric Caton dans ce merveilleux Nocturne à 6, Più non si trovano.
Oh.
trois voix enlacées aux sonorités veloutées de trois cordes bassées. C'était une délicieuse page mozartienne, le Nocturne Più non si trovano, une pièce écrite en 1786. Et maintenant, je continue dans mes raretés, dans mes pépites mozartiennes, avec l'Adagio en ut majeur pour harmonica de verre, une pièce écrite la toute dernière année de la vie de Mozart. Alors il faut tout de même que je vous dise quelques mots sur ce mystérieux, ce fascinant instrument qu'est l'harmonica de verre. C'est une invention de la seconde moitié du XVIIIe siècle qui est due à Benjamin Franklin. Mais oui, l'inventeur du paratonnerre, l'un des signataires de la Constitution des États-Unis. Il se trouve qu'un jour où il était en voyage d'études, Benjamin Franklin assiste à une sorte de petite sérénade musicale dans un cabaret par un cabaretier irlandais du nom de Pokrish. Il voit bien que le brave homme qui a rempli des coupes avec plus ou moins d'eau peine un petit peu parce qu'il est toujours obligé de mouiller les doigts, d'aller d'une coupe à l'autre. Les verres peuvent facilement sonner faux selon l'évaporation de l'eau. Enfin bref, il se rend compte qu'on pourrait être beaucoup plus rationnel en modifiant non pas la quantité de liquide dans le verre, mais la taille du verre tout simplement. Et en coupant les tiges de chacun des verres, on peut les embrocher les uns dans les autres, les percer d'une tige en métal qu'on met sur un mécanisme de machine à coudre. Du coup, les verres tournent en trempant dans un lit d'eau. Il n'y a plus qu'à poser les doigts. C'est ainsi que naît l'harmonica de verre. Mais vous allez me dire, comment est-ce que tout ça arrive jusqu'aux oreilles de Mozart? Eh bien parce qu'à ce moment-là, il y avait un hypnotiseur fameux, Mesmer, un très connu Mesmer. Encore aujourd'hui, aux États-Unis, on dit « to mesmerize someone » pour dire hypnotiser quelqu'un. Et cet hypnothérapeute a eu l'intuition de ce qu'on appellerait aujourd'hui la musicothérapie. Il pensait que les instruments au son aigu pouvaient guérir certaines personnes de leur maladie mentale. Du coup, il s'intéresse à l'harmonica de verre et comme c'est un grand ami du couple Mozart, il finit par décider Mozart à écrire d'abord un quintette pour harmonica de verre, puis une pièce solo qui est un bis demandé par l'une des virtuoses de l'époque, une très jolie jeune fille avec des cheveux blonds qui est aveugle de surcroît et qui répond au nom de Marianne Kirchgassner. Il lui écrit donc cet adagio que je vous propose d'écouter maintenant, un moment de douceur, un moment intense, un moment surnaturel. Nous écoutions l'adagio en ut majeur de Mozart pour harmonica de verre, interprété par Thomas Bloch. Thomas Bloch, un des grands spécialistes de l'harmonica de verre, qui répand ses ondes magiques et hypnotiques de concert en concert dans le monde entier. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai presque eu l'impression d'entendre une sorte de prière, de pièce religieuse. Parce qu'à travers l'intensité de la vibration du verre, j'avais l'impression d'entendre des cœurs d'enfants comme une sorte de céleste Ave Verum Corpus. Tiens, l'Ave Verum Corpus, justement, parlons-en. Ça, c'est une pièce très connue de Mozart. Mais si on dit que c'est la plus belle pièce de musique religieuse jamais écrite dans l'histoire de la musique, eh bien, je vous propose de l'écouter maintenant, mais dans la transcription de Tchaïkovski. Mais oui, parce que Tchaïkovski a composé en 1887 une suite pour orchestre qu'il a intitulée Mozartiana. Et c'est une suite composée de plusieurs orchestrations de pièces de Mozart, dont cet Ave Verum Corpus. Alors vous allez voir, c'est un drôle d'objet musical, d'un romantisme très suave, comme une crème à la vanille, à la limite du kitsch avec sa harpe et ses timbales en trémolo. Et ce qui est drôle, c'est que pour établir son orchestration, Tchaïkovski n'est pas parti de l'original de Mozart, mais de la transcription pour orgue de Liszt de ce si beau motet. Nous écoutons donc maintenant extrait de la suite pour orchestre Mozartiana de Tchaïkovski, l'orchestration de l'Ave Verum Corpus, interprétée par l'Orchestre Symphonique de l'Académie d'État sous la direction d'Evgeny Svetlanov.
Thank you.
Nous étions proches du paradis, me semble-t-il, avec cet Ave Verum Corpus de Mozart, mais revu et corrigé, repensé, réorchestré par Tchaïkovski, avec une orchestration particulièrement suave, opulente, romantique, magnifiquement interprétée par l'Orchestre Symphonique de l'Académie d'État sous la direction d'Evgeny Svetlanov. Je continue dans les raretés mozartiennes avec une petite gigue en sol majeur pour piano. Alors ça, c'est vraiment une pièce très énigmatique parce que je ne suis pas sûr, si je ne vous l'avais pas dit auparavant, que vous auriez deviné Mozart en écoutant cette pièce. Voici l'histoire, c'est presque une scène de film. Vers la toute fin de sa vie, en 1789, Mozart, qui est devenu totalement fanatique de la musique de Bach, fait le pèlerinage jusqu'à Leipzig, se rend dans l'église Saint-Thomas, l'église dans laquelle jouait à l'orgue Bach, dans laquelle on a pu entendre la plupart de ses cantates, et donc il rencontre l'organiste de l'église, et sur son album, eh bien, il écrit une petite gigue pour marquer en quelque sorte ce pèlerinage, un hommage à Bach par un Mozart bouleversé qui vient d'entendre enfin des motets de Jean-Sébastien chantés dans l'église où Bach les faisait entendre. Alors c'est une pièce tout à fait étonnante, seulement 38 mesures, d'un parfait contrepoint, souple, vivant, libre, revigorant, un véritable bijou que je vous propose d'entendre maintenant interprété par Paul Badura-Skoda sur un pianoforte viennois de 1790. C'était la petite gigue en sol majeur de Mozart pour piano, un hommage à Bach, une pièce étonnante, interprétée par Paul Badura-Skoda sur un pianoforte viennois, je l'ai dit tout à l'heure, de 1790. Et puisque nous en sommes maintenant au chapitre des œuvres de Mozart influencées par Bach, je voudrais vous faire entendre sa fugue pour piano en ut majeur. Alors ça, c'est une pièce très étonnante, c'est le moment, donc un petit peu avant la gigue, où Mozart vient de découvrir la beauté des fugues de Bach et de Handel. Et il est surtout impressionné par celle de Bach, au point qu'il passe sa journée au piano à jouer des fugues de Bach. Et ça énerve sa femme Constance qui finit par lui dire « Plutôt que de jouer des fugues de Bach, tu ferais mieux d'en composer toi-même. » Et voici Mozart qui, alors qu'il a une grosse carrière de compositeur derrière lui, se remet à l'étude, redevient écolier, essaye de comprendre comment est-ce qu'on écrit de belles fugues, et il a du mal. Et parfois c'est un peu besogneux, comme dans cette fugue en ut majeur, dont le sujet est un peu malhabile, dont l'écriture est un petit peu heurtée, et jusqu'à ce que j'entende Glenn Gould l'interpréter, je dois dire que je plaçais ça du côté des exercices que Mozart s'était obligé à faire, mais qui n'avait pas beaucoup d'intérêt musicalement. Sauf que dans la version de Glenn Gould, à cette vitesse surnaturelle, avec cet esprit rythmique, cette énergie, ça finit par devenir pas mal du tout. Et c'est un moment important dans la vie de Glenn Gould, puisque Glenn Gould raconte que c'est en travaillant cette fugue pour l'enregistrement qu'il a compris comment il devait jouer maintenant du piano. Tout ça, c'est une question d'aspirateur. Je laisse la parole à Glenn Gould. Un jour, j'étais en train de travailler au piano la fugue Köchel 394 de Mozart lorsqu'un aspirateur passa juste à côté de mon piano. Il en résulta que dans les passages fortés, la musique lumineusement diatonique de Mozart dans laquelle celui-ci imite délibérément la technique de Jean-Sébastien Bach fut submergée d'un halo de vibrato. Vous savez, le genre d'effet qu'on ressent lorsqu'on chante en prenant son bain et qu'on a les oreilles pleines d'eau et qu'on secoue la tête d'un côté sur l'autre tout à la fois. et dans les passages doux, je n'entendais carrément plus rien de ce que je jouais. Mais bien entendu, je continuais à sentir une relation tactile avec le clavier, qui est lui-même chargé de tant d'associations acoustiques. Je pouvais donc imaginer ce que je faisais, sans jamais l'entendre. La chose étrange était que soudain, tout se mettait à sonner mieux que ce n'était le cas sans l'aspirateur. En particulier, ce qui sonnait mieux que tout autre était précisément les endroits où je ne pouvais plus m'entendre du tout. Depuis, lorsque pour une raison ou une autre, j'ai besoin d'acquérir rapidement l'empreinte tactile d'une nouvelle partition que j'ai en tête, je simule l'effet de l'aspirateur en plaçant aussi près que possible du piano toutes sortes de sources sonores opposées, quelles qu'elles soient. Ce peut être le son d'un western qui passe à la télé ou un disque des Beatles, peu importe, du moment qu'il s'agit de quelque chose de bruyant. Car ce que j'ai appris de la rencontre fortuite de Mozart et de l'aspirateur, c'est que l'oreille interne de l'imagination est un stimulant beaucoup plus puissant que tout ce qui peut provenir de l'oreille extérieure. Nous écoutions Glenn Gould interpréter au piano de façon magistrale la fugue en ut majeur de Mozart, qui à mon avis n'est pas une œuvre tout à fait magistrale elle, mais interprétée comme ça, j'achète. Nous arrivons à la fin de l'émission, allez, pourquoi ne pas terminer cette heure Mozart par une petite impro, tiens, sur la 40e par exemple.
Thank you.
C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec la collaboration de Dorian Serre. Chef opérateur du son, Claude Niort. À la semaine prochaine.